Les arènes de l'écologie sur Aligre FM.
Tous les mercredis de 19h à 20h.
Le combat du siècle.
Planète contre humanité.
L'enjeu est énorme, on sait déjà que la planète finira par gagner.
Mais combien de temps tiendra encore l'humanité ?
Moi, jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas si on pourra faire d'autres émissions. Ça, vu l'actualité, c'est vrai que ça commence à faire peur. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ces sujets trumpiens et autres. Hein. On reste quand même dans notre petit giron français et pour parler cette fois-ci encore d'agriculture. Donc, le salon de l'agriculture vient de se terminer. On pensait la faire un petit peu close sur la question de la loi qui nous avait occupé il y a 15 jours. Et puis, tout compte fait, c'est pas si simple que ça. Et puis, l'actualité agricole est tellement importante. Et puis, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Et puis, on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de liaisons, de relations avec l'écologie, qu'on peut difficilement faire de l'écologie sans de l'agriculture. Bon, donc voilà, on va faire deux émissions sur l'agriculture. Donc aujourd'hui, on a deux éminentes invitées. Donc Paloma Pardinet, j'ai toujours autant de problèmes avec les noms propres, vous m'excuserez tous. Et puis Véronique Marchesseau. Alors Paloma est consultante en aménagement, elle travaille pour la CET, donc qui est une filiale de la Caisse des dépôts, et qui vient de produire une étude prospective sur l'agriculture en 2050. Votre attaché de presse avait même carrément corsé le sujet. Grosso modo, c'était l'agriculture s'effondrera-t-elle en 2050 ? Donc ça m'a tout de suite attiré l'attention. Mais bon, j'ai vu que votre étude était plus circonspecte tout de même. Il y a trois scénarios. Bon, on va rentrer dans les détails tout à l'heure. Et puis, on a Véronique Marchesseau, qui est non seulement éleveuse de vaches en Bretagne, mais également secrétaire générale de la Confédération paysanne, et puis qui apportera son œil critique sur ces sujets. Et puis, il y a aussi des sujets d'actualité à détailler avec nos amis Ben et puis Olivier, qui nous rejoint aujourd'hui. Donc, Olivier qui nous parlera, fera un petit tour de presse, et puis Ben, lui, qui doit nous faire son tour du monde à Paris sur l'actualité internationale vue de la place de la République, ou à peu près. Donc, tu as pu bouger un peu ces derniers jours.
François, tu veux que j'y aille? Tu m'accordes comme ça quelques...
Voilà, tu as 3 minutes.
Alors, on va démarrer tout de suite. Avis aux auditeurs. Cette fois-ci, c'est très sérieux. Je ne vais pas vous parler du 8 mars. Je sais que vous y attendez. Mais j'ai d'autres dates, deux dates clés que j'espère vous allez retenir. La première, c'est le 5 mars. C'est aujourd'hui même. Et c'est la journée internationale de sensibilisation au désarmement et à la non-prolifération. Vous allez me dire, c'est pas vraiment... c'est un peu hors sujet. Je te vois venir, François. Mais en même temps, on se rend compte que dans ce monde de brutes, où il y a quand même des cow-boys qui sont en train de vouloir avoir l'emprise sur l'humanité, on s'aperçoit que même toutes les questions qui ont trait avec la guerre et la paix, avec l'armement, ça a des conséquences aussi bien sur le climat que sur tous les différents traités, et donc sur la marche du monde, aussi sur la biodiversité, aussi sur tout ce qui est environnemental. Donc le désarmement, de toute façon, c'est terminé. La prolifération, la non-prolifération, c'est pas du tout terminé, parce que y a beaucoup de nouveaux candidats à la prolifération nucléaire. Mais bon, je vais pas insister ni sur le Japon, ni sur les tentations d'autres acteurs internationaux. Je vais vous parler d'une deuxième date qui va vous intéresser, c'est le 7 mars. 7 mars, c'est une journée mondiale de mobilisation pour la science, pour défendre la science face aux obscurantismes. Et d'ailleurs, le mouvement s'appelle « Debout pour la science ». Évidemment, il a pris son essor ces derniers temps grâce à M. Trump. Et c'est aujourd'hui, en même temps, quelque chose qu'on essaye de développer, de faire proliférer à travers le monde. Il y aura donc aussi des manifestations prévues en France, dans toute l'Europe d'ailleurs. Et ça rappelle à certains ce qui s'est passé comme mobilisation en 2017, lors du premier mandat du milliardaire Trump. Il y avait déjà eu une marche pour la science. Et ça avait rassemblé quand même plus d'un million de participants. Alors pourquoi c'est important ? C'est parce que d'abord, ce n'est pas quelque chose seulement de corporatiste pour les scientifiques. C'est vraiment à partir de cet obscurantisme, on s'aperçoit quand même qu'il y a nécessité de mobilisation contre des gens qui sont comme Bolsonaro au Brésil, Javier Milei en Argentine. Il y a aujourd'hui une nouvelle forme de macartisme. Donc les gens qui sont persécutés, c'est aujourd'hui des scientifiques. C'est des gens qui ont bossé pendant des années dans les plus grandes agences mondiales et qui font un boulot extraordinaire, que ce soit à la NOAA, l'agence qui s'occupe principalement de tout ce qui est océanographique et atmosphérique, des agences comme la NASA. Les procédures qui sont utilisées contre ces gens-là, c'est vraiment des méthodes totalitaires qu'on pourrait imaginer éventuellement en Corée du Nord ou ailleurs. Mais là, non. C'est aux États-Unis, des scientifiques, leurs données sont en train d'être détruites, leurs travaux sont en train d'être mis à l'écart. Les personnes eux-mêmes risquent, quand ils risquent pas leur vie, en tout cas ils risquent leur boulot. Et c'est pourquoi il y a donc une mobilisation qui est prévue dans plusieurs centaines de villes du monde. Et j'avais envie de vous en parler. Il y a d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez lu, il y a une tribune dans le journal Le Monde qui parle aussi de ça. Et celle que, François, tu voulais inviter ici, Valérie Masson-Delmotte, elle en parle aussi.
D'accord. Et ta manif, elle est donc le
7. Ma manif, elle a le 7.
Et où ?
Et c'est à Jussieu, ça démarre à Jussieu à partir de 13h. Hein, c'est bien ça ?
Oui, il me semble avoir entendu ça ce matin.
Tout le monde m'a dit oui, donc ça doit être ça, ça doit être bon.
Ok, donc effectivement, face aux nouvelles inquisitions, parce que c'est de ce ressort-là, on brûle
c'est du macartisme à l'état...
On casse les bases de données comme on brûlait les livres il y a quelques siècles.
Et alors, Valérie Masson-Delmotte parle bien de la façon dont on est en train aussi de s'attaquer à toutes les sciences de la durabilité. Donc voilà, je...
Ok. Bah, alors, il va falloir qu'on bouscule nos programmes et qu'on traite le sujet de manière approfondie dans quelques temps. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça restera quand même l'agriculture.
D'accord.
Ok.
Donc je ne vous parle pas de ce qui va se passer le 20 mars, non. Parce que j'aurai encore du temps la semaine prochaine.
Exactement. Et donc, Olivier, on va te laisser... nous faire ton petit tour de presse, mais tu veux peut-être rajouter un mot, puisque je crois que tu as des oreilles qui traînent jusqu'à San Francisco sur ce...
Oui, c'est vrai que la recherche en général aux États-Unis fait l'objet d'une vengeance pure et dure, à la manœuvre via Trump, mais Musk aussi, qui se fait un doux plaisir de se venger, en particulier sur la Californie. Et ce n'est pas les sciences qui le concernent, hein, qui sont attaquées, c'est vraiment les sciences qu'on appelle ici les sciences sociales, hein, tout ce qui est histoire, et le climat, l'ANAO, qui a fait un travail énorme et qui rend public ses données, en plus, qui peut être récupéré par les agences météorologiques. C'est ça qui va changer la donne. C'est-à-dire que là où ils étaient forts aussi pour annoncer les cyclones, qui sont quand même monnaie courante chez eux, et les phénomènes météo, ils ont un territoire particulier, les Américains. Et là, on sent qu'ils vont perdre le contrôle sur ce genre de choses. Et ça va aller vite dans un autre sens. Hein. C'est-à-dire que la conséquence va être sur le bas-peuple. Donc j'embraye avec ce que tu as dit tout à l'heure. Pardon ?
Qu'est-ce que tu veux dire, le bas-peuple ?
C'est-à-dire que c'est les gens qui avaient des informations gratuites, qui n'auront plus ces informations, le coma des mortels.
D'accord.
Monsieur, madame, tout le monde, l'Américain moyen qui a voté pour Trump quand il s'agit du sang des États-Unis en particulier, lui, il va en subir les conséquences. Ça, il y a fort à parier que ce soit eux les premières victimes, et en même temps, ils l'auront bien cherché puisqu'ils ont voté pour lui, après tout.
Hein. Ironie de l'histoire. Mais bon...
Donc on va embrayer sur l'agriculture, on va rester dans notre sujet principal, et je vais revenir sur la loi d'orientation agricole, hein, qui s'appelle la loi pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Alors elle a été définitivement adoptée par le Parlement français en février 2025, le Sénat a approuvé le texte final le 20 février 2025, deux jours avant le Salon de l'agriculture, comme on le disait tout à l'heure, mais elle a fait l'objet d'un recours auprès du Conseil constitutionnel le 24 février par 60 députés. On n'a pas la liste des députés, hein, mais 60 se sont réunis, au moins, il y en a peut-être beaucoup plus d'ailleurs. On n'a pas non plus les points de recours, mais la loi est vaste, donc il y a de quoi faire. Et donc la loi, pour le moment, elle n'est pas promulguée, elle n'a pas été publiée au JO, puisqu'on est en attente de la décision du Conseil constitutionnel.
Donc ce que tu nous dis, c'est que contre toute attente, la messe n'est pas dite.
Contre toute attente, la messe n'est pas dite.
D'accord, voilà. Eh ben, ça tombe très bien, parce qu'on ne l'avait pas vraiment bien apprécié, cette priorité accordée à la compétitivité pour se concentrer sur un point essentiel de la loi, mais on en parlera tout à l'heure. Et puis je pense que Véronique a des choses à nous dire sur le sujet. Il y avait un autre point aussi que tu devais aborder sur les fameuses chambres d'agriculture, parce que là aussi la messe n'est pas dite.
Ça fait un deuxième sujet de transition avec Véronique, tout à fait. La messe n'est pas dite, quasiment en fait, hein, ça a été souligné dans Le Monde, je crois que c'est le 25 février dernier. En fait, après que la FNSEA et les jeunes agriculteurs aient pris quand même une défaite historique, restant majoritaire à 80%, mais avec quand même des belles avancées, notamment de la coordination rurale, mais aussi de la Confédération paysanne, hein, qui a conforté ses positions dans l'Ardèche, et qui a aussi été élue en Guyane, et en Corse avec une liste d'union, ce qui est quand même une bonne chose aussi. Donc on voit bien que la discussion est dans quel camp elle est. Hein.
Et puis qu'il reste toujours...
La FNSEA a trouvé le moyen, à l'occasion des élections des présidents, parce que c'est une chambre avec une élection à liste à un tour, et il y a un deuxième en fait, échéance, c'est l'élection des présidents, qui a eu lieu juste après. Et là, il y a eu des gros coups de pression de la FNSEA, des jeunes agriculteurs, pour reprendre le pouvoir à l'occasion de l'élection des présidents, reprendre la présidence, l'exécutif des chambres. Et ça s'est plutôt bien déroulé en mettant la pression sur... c'est une élection par collège, et il y a un collège des propriétaires fonciers qui participe à l'élection du président et qui a été voté comme un seul homme avec la FNSEA, qui a donc ravi des présidences là où elle avait perdu en nombre de voix. Donc on voit bien aussi quelle manipulation est capable ce syndicat corporatiste.
Les choses se tendent, on sent qu'il y a effectivement de plus en plus de pression et de tension. Je crois qu'il y avait aussi un autre point que tu devais aborder sur les Belges qui ont envahi les plateformes portuaires de Cargill.
Oui, absolument. Alors ça, c'est plutôt... le 1er mars, donc samedi dernier, hein, plus de 700 activistes écologistes, ont bloqué et investi le site de Cargill situé dans le port de Gand. Cette action visait à dénoncer les pratiques de l'agrobusiness et à attirer l'attention sur les impacts environnementaux liés aux activités de l'entreprise.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Donc effectivement, c'est tout un symbole de cette agriculture compétitive qui n'a de cesse de vouloir exporter, mais souvent du blé dopé, quoi. Il faudrait effectivement qu'on puisse en reparler, mais ça fait partie des sujets. Donc, grosso modo...
Ça fait suite à un plan social aussi, parce que non seulement il faut que ça soit rentable, ces affaires-là. Donc, ils étaient aussi en train de licencier quelques centaines de salariés en Belgique. Et donc, ça fait écho aussi à ça. C'est non seulement... ils ont des méthodes... c'est de l'agrobusiness, hein, c'est une des premières entreprises mondiales. C'est 165 milliards de chiffre d'affaires. Cargill, c'est énorme. C'est une entreprise, majoritairement américaine. Et qui est redoutable, qui, dans pas mal de débats, derrière tout, et n'apparaît pas, puisqu'ils n'ont pas de marque.
Bon, ils ne sont pas agriculteurs, mais quelque part, ils pèsent sur l'agriculture,
faire simple.
Bon, donc voilà, effectivement, les sujets ne sont pas si neutres que ça. Bon, il me reste une petite minute pour vous donner des nouvelles de l'hôtel de Roquechlore. Ça vous manquait. Bon, ça tombe bien, effectivement, Mme Agnès Pannier-Runacher n'a pas publié son agenda. C'est pour ça que je vous ai laissé vous développer vos points de vue. Bon, néanmoins, elle n'a pas rien fait non plus. Hein. Il y a même quelques communiqués de presse. S'intéresse à la question de la culture de la gestion du risque. Ça me rappelle des vieux sujets que j'avais traités il y a bien longtemps. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, elle va lancer un concours, mais je vous en parlerai la semaine prochaine. La formation m'est arrivée beaucoup trop tard pour que je puisse vous la distiller de manière précise. Mais bon, écoutez, donc là, c'était un peu calme du côté de l'hôtel, mais on y reviendra. Ne vous inquiétez inquiétez pas. Donc on va pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet. Nos deux invités se demandaient mais par quel chemin ils passent avant de nous tendre le micro. Ben voilà, on est arrivé. Donc Paloma Pardiniel, dites-nous comment vous êtes arrivé à traiter, dans, vous qui êtes juriste, qui êtes passé par une école de commerce, qui êtes dans un cabinet de... école de commerce à Lyon. Comment vous en êtes arrivé à traiter d'agriculture? Comment la CET, la Caisse des dépôts, qu'on le voit plutôt dans le monde urbain, s'intéresse? Alors c'est vrai qu'elle a des forêts, mais on pourrait en reparler. Mais c'est vrai que ce n'était pas l'acteur le plus présent sur ces sujets d'agriculture. Mais c'est ça, je trouve que c'est très bien qu'elle s'en empare, parce que la Caisse des dépôts, ça pèse. Donc dites-nous tout.
Bonsoir, Paloma. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette discussion avec vous ce soir. Donc moi, je suis directrice de la cellule de conseil en stratégie de la CET. La CET, c'est un cabinet de conseil. On n'est pas la Caisse des dépôts. Notre actionnaire, c'est la Caisse des dépôts. Mais ça a quand même une incidence sur notre identité, c'est-à-dire qu'on se considère des consultants d'intérêt général, on travaille, on est engagé envers les personnes qui transforment les territoires. Et donc, on fait de l'aménagement du territoire, mais du coup, forcément, on fait aussi, on travaille beaucoup sur les sujets d'environnement, de résilience territoriale. On est 400 consultants.
Oui, j'ai vu que c'était quand même une grosse maison. Mais bon, effectivement, c'est pour vous rapprocher. Je n'ai pas dit que vous étiez aux ordres de la Caisse des dépôts. Vous nous expliquerez toute l'indépendance dont vous pouvez bénéficier, j'en doute pas. Mais bon, c'était pour vous situer.
On travaille sur les sujets d'urbanisme, mais aussi beaucoup sur les sujets agricoles, d'alimentation des territoires, auprès des collectivités, beaucoup.
Prospective, alors aussi. Hein.
De prospective, de construction de filières locales, de projets alimentaires de territoire, et tous les sujets qui sont en lien avec la planification territoriale, qui sont les trams, PLU, SCOT, tram bleu, verte, tous ces sujets-là.
Voilà, c'est vrai qu'on peut s'y perdre quand on n'est pas plongé dans ce genre de thématiques. Mais donc là, vous avez regardé à 2050, l'agriculture à 2050. Alors, quelque part, la loi d'orientation, c'est un peu vous qui l'avez fait, parce que M. Duplomb nous a un peu torpillé l'affaire, pour ne pas dire qu'il a mis du plomb dans l'aile à l'agriculture. Mais c'est vrai que la vision de cette loi d'orientation nous a laissé sur la fin. Mais par contre, j'ai trouvé que votre cabinet de presse était très, très fort en termes de synchronicité. C'est tombé à pile poil en nous disant bah, « Enfin, voilà, y a un horizon ». Alors, quel est-il cet horizon? Racontez-nous ce que sera l'agriculture en 2050. Alors, il y a trois scénarios, si j'ai bien compris.
On a publié cette étude la semaine dernière, pendant le Salon de l'agriculture. C'est une étude prospective à 2050 dans laquelle on tire un scénario de continuité. Qu'est-ce qui se passerait d'ici 25 ans si rien ne bougeait vraiment?
Au fil de l'eau, vous avez
appris ça. Au fil de l'eau, voilà. Un scénario au fil de l'eau. Et c'est un modèle prospectif autour de sujets évidemment liés au changement climatique, mais aussi économique, démographique,
c'est
de
le prolongement des tendances actuelles, c'est
voilà,
ça?
Voilà, c'est un modèle d'une soixantaine de tendances. Et ce scénario de continuité, il n'est pas très heureux. Nous, on estime qu'il y a un impact économique de l'ordre de 35 à 40% de valeur ajoutée agricole qui disparaîtrait. C'est à peu près 15 milliards d'euros par an. C'est pas énorme si on le rapporte au PIB de la France, mais c'est quand même 15 milliards d'euros. On en parle beaucoup, on en a parlé beaucoup ces dernières semaines, parce que c'est par exemple le montant que la Cour des comptes a estimé comme étant le montant de la dette dans 10 ans des retraites. Et donc, ça a fait beaucoup de bruit. Donc, ça pèse quand même 15 milliards d'euros dans un budget annuel.
Ça fait 15 000 millions d'euros.
Et oui.
Ça fait trop souvent.
Moi, je trouve que ça fait plus quand on parle comme ça. Les milliards, c'est un peu abstrait.
L'équivalent en terre que nous, on projette, c'est encore plus concret. C'est plus de 40% de la surface agricole utile qui serait à risque. Et nous, on a fait notre étude prospective. Elle se concentre sur les filières végétales destinées à l'alimentation humaine. Donc on en a pris 25 qui constituent 80% en fait de cette production-là. On a dû délimiter pour pouvoir projeter. Et les deux tiers de ces cultures seraient à risque.
D'accord.
On a croisé ces cultures, les tendances par culture, par département aussi. Parce que évidemment, les effets entre un département du sud, du nord, littoral, montagneux, ne sont pas du tout les mêmes. Et parce que par département, ils ne poussent pas la même chose. Donc, bah, y a des effets qui sont projetés. Alors,
sur la carte que vous avez publiée, qu'on a remis d'ailleurs sur le site internet et sur Instagram de l'émission, on voit bien que c'est la France agricole du Sud qui est la plus menacée. Affectée, menacée. Oui. Mais ceci étant, la Bretagne n'est pas du tout épargnée. Les Pays de la Loire morflent aussi.
L'Alsace.
Et puis l'Alsace aussi. Alors, c'est quoi ? C'est le maïs qui morfle en Alsace ?
Le maïs, oui. Donc, effectivement, une des conclusions de l'étude, c'est qu'il n'y a pas que le Sud qui est impacté. Et donc, il ne suffira pas, entre guillemets, de prendre ce qui pousse au Sud et de le migrer vers le Nord. C'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des territoires plutôt au nord de la France qui seront impactés par une combinaison d'effets. Il y a un effet démographique. Il y a des départements dans lesquels les agriculteurs sont plus âgés. Donc on va avoir un enjeu de transmission qui va être plus important qu'ailleurs. Et il y a un effet de mix de cultures. Il y a des départements dans lesquels ce qui pousse va être plus fragile, exposé aux effets du changement climatique. En Alsace, la moitié des légumes, c'est du chou. Bon, bah alors du coup, forcément, si le chou est impacté parce que plus de ravageurs, etc., bah, on va avoir un impact qui va être fort sur les cultures.
Bah, et puis la choucroute sans chou, c'est moins bon, quoi.
Plus de la majorité des grandes cultures, c'est du maïs. Vous avez raison. Donc effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles le département Alsace est impacté.
Ben, tu voulais dire ?
Oui, moi j'aurais juste une question sur qui sont les destinataires de ce genre d'études ? Qui sont les gens aussi qui le demandent et qui sont les gens qui éventuellement en seront les bénéficiaires ?
Alors, les demandeurs, nous, on s'est auto-saisis de ce sujet-là. On a une partie de notre temps, c'est important de le dire, c'est une étude indépendante, on a une partie de notre temps, du temps de mon équipe, qui est destinée à produire des études tout au long de l'année.
Une étude sans client ?
Eh oui.
Mais d'accord, oui, voilà. Voilà, j'aimerais faire ça.
On consacre une partie de notre temps à ça parce que ça vient alimenter la discussion publique et qu'on est là pour ça et travailler pour le développement des territoires. À qui ça va servir ? J'espère que ça va servir aux décideurs publics à tout niveau et aux acteurs privés parce que pour faire la transition, il faut des moyens.
Pas la transition écologique sans les paysans, c'est clair. Mais effectivement, on peut aussi peut-être sortir du ghetto agricole, parce qu'on a un peu tendance à constater que l'agriculture se fait un petit peu dans des cercles confinés, et que quand on n'est pas agriculteur, quand on n'est pas fils d'agriculteur, c'est tout juste si on peut avoir son mot à dire quelquefois dans le débat. Véronique, peut-être je te vois opiner de la tête, tu as peut-être quelque chose à rajouter.
En fait, je suis plutôt contente de voir ce type de scénario développé, parce qu'en fait, c'est celui qu'on combat, nous, à la Confédération Paysanne, en ayant bien conscience que l'agriculture majoritaire telle qu'elle est faite aujourd'hui, en fait, elle ne répond pas aux enjeux, à l'ensemble des défis auxquels l'agriculture est confrontée. On nous parle aujourd'hui que d'exportation, de productivité, tout ça, mais en fait, l'agriculture, elle doit répondre à d'autres enjeux, la vie dans les territoires, préserver la biodiversité, maintenir les capacités des sols à produire, et de préserver les ressources. Du coup, c'est sa fonction, mais aujourd'hui, on l'approche que par des résultats économiques. En fait, du coup, l'agriculture, qui serait une source de production, et donc on évaluerait que par...
Non, Véronique, je te coupe, tu n'es pas au bout de tes surprises, parce que la Paloma vient de nous expliquer le premier scénario au fil de l'eau. Grosso modo, on prolonge les tendances, mais il y a deux autres scénarios derrière, et il y en a un qui... Alors, si tu n'aimais déjà pas le premier, alors là, le deuxième, je crois que...
Oui, le deuxième risque de ne pas vous plaire. Les deux, mais peut-être que le troisième, un peu plus. Voilà. Les deux scénarios qu'on projette sont des scénarios de non-choix. S'il ne se passe rien, en fait, on n'aura pas le choix. On va être plongé, soit dans l'un, soit dans l'autre, et... aucun des deux ne s'inscrit dans un futur désirable. Le premier, c'est la loi du marché qui l'emporte. L'agriculture devient trop difficile à financer.
C'est ce que vous avez appelé le scénario de la compétitivité. Grosso modo, c'est quand même le scénario qui a été choisi par la loi d'orientation de février. Donc, voilà.
Donc, non, c'est pas ce que vous dites.
Ne peuvent subsister que les filières à forte valeur ajoutée. Et donc, du coup, notre souveraineté alimentaire, elle dépend beaucoup d'importations. L'autre scénario, à l'opposé, c'est un scénario de planification très forte, c'est-à-dire que le secteur privé n'arrive plus à financer l'agriculture parce que trop de terres inassurables, trop d'activités inassurables, trop d'événements climatiques qui perturbent les rendements, et donc du coup beaucoup de territoires ou de filières ne sont plus assez rentables, et donc subventionne l'agriculture à tel point qu'en contrepartie, on lui demande, ce que vous évoquiez à l'instant, on lui demande d'avoir un rôle qui va au-delà d'alimenter, mais qui va un rôle, une mission sur les territoires autour de la transition, de la gestion de l'eau, du foncier, de la régulation des paysages. Et donc, l'agriculteur devient, commence à avoir beaucoup de casquettes. Et voilà.
Donc mais c'est un modèle qui n'est pas si inconnu que ça, parce que c'est notamment le modèle qu'on veut, qui a été appliqué à la forêt, qui est qualifié d'un espace multifonction. C'est comme ça que la forêt est perçue en France. Et effectivement, l'idée, ce serait quand même de considérer le monde, l'espace agricole, comme un espace multifonctionnel devant répondre à plusieurs missions. C'est comme ça que je peux comprendre ce que vous nous dites. À la Caisse des dépôts, votre patron, parce que vous n'en êtes pas. J'ai bien compris, je vais me faire taper sur les doigts. Mais en tout cas, les gestionnaires forestiers le savent. En tout cas, à l'ONF, on le sait très bien. Mais bon, l'ONF, c'est qu'un quart de la forêt française. On sait faire de la multifonctionnalité. Donc voilà, donc c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. C'est pas de la science-fiction.
Mais le premier scénario non plus, c'est pas de la science-fiction. Ça a été adopté par certains États. C'est un choix de société. Et ce choix, en fait, il faut le prendre maintenant. C'est pour ça qu'on, autour de cette étude, nous, on prône aussi... des décisions et des actions à prendre maintenant, parce que c'est une étude à 2050. Donc c'est loin, mais en même temps, c'est pas si loin que ça, 25 ans. Si on regarde en arrière, on sait à peu près ce qu'on faisait tous en l'an 2000. Quoi. C'est pas très loin, 2050. Et c'est le temps du changement, surtout sur un secteur comme l'agriculture. On est sur du temps long. On ne change pas l'agriculture en 5 ans. Il faut au moins ça. Et donc les actions, il faut les prendre dans les années qui viennent.
De toute façon, l'agriculture change à la mesure des générations. Grosso modo, c'est le temps du père et des enfants qui marquent souvent les différences. Mais ça, Véronique, tu vas nous le dire. Mais je crois qu'on ne devrait pas... Oh non, c'est bon, on a encore du temps avant la musique.
Et donc, quand vous présentez vos différents scénarios, il y en a un ou deux que vous essayez de mettre en avant davantage? Ou ça se passe comment ?
Non, ce qu'on met en avant, c'est la méthode pour pouvoir prendre le choix, pour pouvoir prendre une décision. On pense que pour pouvoir faire une telle transformation, il faut impliquer tous les acteurs de la chaîne de valeur, de bout en bout. On parlait tout à l'heure, les producteurs d'intrants, les fabricants de machines, les transformateurs, les collectivités, pour pouvoir donner un cap et que chacun sache vers où on va. Ça permet de sécuriser les investissements et de pouvoir prendre des actions qui sont dans un cadre donné.
Et les élus territoriaux. Allez, vas-y, Véronique.
Du coup, je voulais rebondir sur le scénario 3, où en fait, on aurait l'impression qu'on demande à l'agriculture de faire autre chose que ce qu'elle fait aujourd'hui. Mais en fait, nous, on défend un projet politique qu'on appelle agriculture paysanne, où du coup, en fait, tout ça, c'est intrinsèque à l'agriculture paysanne.
Intégré.
De, en même temps, participer à produire une alimentation, qui correspond aux besoins alimentaires et qui garde nos concitoyens, concitoyennes en bonne santé. Mais en même temps, du coup, on respecte les ressources et c'est pas contre... il n'y a pas la production agricole contre la préservation de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, si les sols deviennent stériles, en fait, nous, ça va diminuer nos capacités de production. Donc, on n'a aucun intérêt à ne pas respecter nos sols. Si en fait on fait effondrer la biodiversité, quid du coup de la pollinisation de nos plantes. En fait, on a besoin, nous, pour notre activité agricole, de préserver ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous demande en plus. C'est si on ne le fait pas, en fait, on va dans le mur, quoi. On va diminuer nos capacités de production.
Il y a l'enjeu sur l'eau aussi, hein, qui est assez important. Et la guerre est déjà déclarée pour l'eau. Hein. Et avec plein de contradictions, on les souligne bien là. L'eau, on est en train d'assister à quelque chose d'incroyable. On nous dit partout et on a une information qui est constante sur le fait que l'eau est de plus en plus contaminée par différents produits, les PFAS maintenant, etc. Et on devrait autoriser, en fait, certains produits qui sont caractéristiques de, et qui se dégradent et qui finissent dans, forcément dans la pratique, ou en tout cas dans l'eau, à consommer. Donc ces contradictions-là, parce que vous avez fait un rapport qui, je crois, est vraiment dans l'air du temps, là. Moi, je voulais vous demander quelles étaient vos sources scientifiques. Vous appuyez sur, effectivement, des scénarios qui sont... vous travaillez avec des équipes scientifiques, vous récupérez quel matériel, le GIEC
Oui, on est parti du scénario moyen à plus 4 degrés sur les sujets de réchauffement climatique. Et on a croisé pas mal de données. L'INRAE produit beaucoup d'informations.
Oui, j'ai vu, vous êtes beaucoup appuyé sur une base de données que je connais un peu, qui s'appelle Agrest, et notamment sur... sur les enquêtes terre labourable. Alors le terme est un peu désuet, mais bon, c'est des enquêtes sur le très long terme. Ça, elle existe depuis bientôt une cinquantaine d'années. Et effectivement, il m'a été donné de pouvoir torturer un peu ces bases de chiffres. Et effectivement, quand on parle des réductions de rendement, c'est pas, comment dire, un fantasme. On le voit, on avait publié dans mes revues des résultats, et on voit sur certaines cultures, notamment de mémoire l'orge et le blé, que des baisses de rendement tout à fait notables. Alors c'est pas régulier partout, c'est pour ça aussi que c'est compliqué à gérer. Puis bon, on dit aussi que les données d'Agrest sont pas non plus tout à fait fiables dans le détail, mais en tout cas dans la masse, on s'aperçoit que les rendements, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, ou autant qu'on veuille les doper à je ne sais trop quoi, la nature suit pas et ça baisse.
C'est un sujet de rendement, mais c'est aussi un sujet de qualité intrinsèque des produits. On le voit sur le blé, on le voit sur les fruits aussi, que ce soit en viticulture ou sur les agrumes, dont le goût change. Et donc du coup, ça a un enjeu aussi sur notre compétitivité à l'international, parce que du coup, il y a des catégories de produits qui sont où on va avoir moins de rendement, mais où on va avoir des...
Alors je voyais dans votre publication que les mandarines ou les clémentines, je ne sais plus, je vais me faire attraper par l'écorce, s'acidifiaient, perdaient de leur qualité gustative, c'est ça?
C'est change les normes, sortent des critères de la grande consommation notamment. C'est le cas aussi du vin. Du raisin pour le vin. Oui, il y a ce sujet de qualité aussi.
Donc le changement climatique, c'est pas pour demain, c'est déjà aujourd'hui et c'est déjà hier.
Je crois que c'est l'INRAE qui avait mesuré que sur l'abricot en 2024, il y avait eu une baisse de rendement de 34% sur l'année parce qu'il y avait eu des fortes pluies qui avaient abîmé les fleurs.
Bon. Oui, donc les variations interannuelles, c'est très spécifique au monde de la culture, mais on peut pas se rester sur une année, il faut au moins prendre sur 5 ans pour dégager une tendance. Mais par exemple, oui, il y avait l'INRA qui bosse beaucoup sur ces sujets-là, estimait que, par exemple, les conditions climatiques, agroclimatiques, avaient progressé de 100 km vers le nord. Et on avait fait signe que... on lance la pause musicale et pour une fois, on est dans le timing. Et puis, on leur demande, allez-y les gars, on vous... A...
Aligre FM 93.1. For this moment, for all my life.
Eh bien, on va remercier Phil Collins. Et puis, donc, on revient dans les arènes de l'écologie avec Paloma Pardiniel et Véronique Marchesso. Alors maintenant, ça va être surtout à toi, Véronique, à qui on va poser les questions. Donc, effectivement, cette réalité du changement climatique, ces perspectives d'évolution du monde agricole, quelquefois cet antagonisme qui se fait jour. Comment ça se passe chez toi en Bretagne? Ça se frite un peu entre agriculteurs.
Le dérèglement climatique, en fait, on le subit tous. Hein. Quel que soit le modèle, on le subit. On le subit dans nos cultures, hein. Ça a déjà été un peu dit tout à l'heure. On le subit avec des tempêtes. Enfin, si on veut parler de ma région, l'année dernière, il y a une énorme tempête, Kiaran, qui a vraiment affecté tous les maraîchers en envoyant les serres en l'air et tout ça. Et en fait, des épisodes climatiques comme ça, il y en a un peu partout. On le subit aussi avec une augmentation des problématiques de maladies animales, en fait, qui remontent avec des vecteurs qui avant étaient beaucoup plus au sud de la France et qui maintenant nous amènent des maladies. Et donc,
qu'est-ce que tu appelles comme vecteur?
C'est des moustiques, des moucherons qu'on appelle les culicoïdes, je crois. Enfin bon, je ne suis pas une experte, mais enfin, en tout cas, des petits animaux qui transportent des virus, des maladies, et du coup qui affectent nos élevages. Et on a beaucoup entendu parler l'été dernier, je ne sais pas si vous avez entendu...
La fièvre catarrhale.
Fièvre catarrhale ovine, maladie hémorragique, MHE, FCO8, FCO3, pour leur donner leur petit nom.
C'est l'Ebola en Bretagne, quoi.
Et donc, en fait, ça, c'est en fait une évolution des maladies animales qui est aussi une conséquence du dérèglement climatique. Il n'y a pas que les inondations dans les champs, les sécheresses dans nos pâtures, le gel de nos fruits. En fait, tous les secteurs de l'agriculture sont atteints par le dérèglement climatique. Nous, on a plutôt tendance à appeler ça dérèglement que réchauffement, même si ça se traduit
à
l'échelle planétaire par un réchauffement. Mais nous, c'est vraiment des dérèglements.
Oui, sauf que le dérèglement, il n'y a jamais eu de vrai règlement. C'est pour ça que c'est contesté de temps en temps.
Ok, bon, de toute façon, c'est pas très grave, on voit bien la notion qu'il y a derrière ce qu'on dit. C'est
ça que, bouge et pas en bien, quoi.
Non, ça bouge pas particulièrement bien, même si, effectivement, maintenant, en Bretagne, il y a des gens qui plantent des vignes, et on peut se dire que
Affolement climatique, c'est pas mal.
Que ça, c'est... Il y a quelques évolutions qui peuvent paraître à la marge, du coup, intéressantes, mais globalement, en fait, ça perturbe beaucoup plus...
C'est vrai qu'on
plus
en parle beaucoup plus que ce problème de moustiques ou de volants qui transportent les maladies. Peut-être qu'on va aussi dire à nos camarades journalistes qu'il faut peut-être creuser un peu plus ces sujets.
Ça ne touche pas que les aspects végétaux, ça touche aussi nos élevages.
Véronique, toi, tu es éleveuse de vaches, limousines, si j'ai bien compris, des vaches qu'on mange.
Oui.
Et est-ce que ça a des conséquences sur la croissance des vaches? Est-ce que tu vends moins de... Est-ce qu'elles grossissent moins vite?
En 2022, en fait, nous, on est en système herbagé, c'est-à-dire qu'on ne donne que de l'herbe à manger à nos vaches, soit de l'herbe qu'elles pâturent, soit de l'herbe qu'on stocke sous forme de foin et qu'on leur redonne l'hiver. Et donc, du coup, en fait, en 2022, on a eu un mal fou à les faire pâturer tout l'été, alors que dans une région relativement humide comme la Bretagne, normalement, on n'a pas d'arrêt de pousse de l'herbe en été. Là, du coup, plus rien. Et en fait, on n'était pas tellement... On a vraiment commencé à s'inquiéter parce qu'on n'avait pas suffisamment de stock pour à la fois leur donner à manger en été et pouvoir les nourrir derrière avec des stocks. Donc,
Étiez sauvés par quelques hivers pourris et
oui,
pluvieux.
Ça fait 2 ans que là on n'a plus de problème d'eau parce que du coup on est en automne depuis déjà presque 2 ans, donc avec des quantités d'eau incroyables qui nous facilitent pas le travail par ailleurs, quoi, parce que du coup quand il y a trop d'eau, ça dégrade nos sols.
On peut plus se mettre le blé d'hiver, par exemple.
Oui, ça retarde du coup les travaux dans les champs, enfin ça affecte du coup les calendriers des travaux dans les champs. C'est vraiment...
Alors, comme disait Pépé, il n'y a plus de saison, quoi, c'est un peu le bazar, quoi.
Ouais, en ce moment, il n'y a plus trop de saison, donc c'est vrai que quand j'entends les dictons sur France Inter le matin liés aux saisons, je me dis, mais où est-ce qu'elle va les chercher, tous ces dictons qui n'ont plus de sens? Mais voilà, c'est... ça... ça nous insécurise vraiment, en fait, dans notre travail. Ça complique vraiment, vraiment notre façon de voir les choses. Et comme vous disiez tout à l'heure, en plus, les assurances, c'est un peu compliqué parce que il y a énormément de productions ou d'élevages qui sont touchés par les événements climatiques. Et aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est de nous assurer. Mais en fait, il n'y a pas la possibilité d'assurer.
Alors comment effectivement les éleveurs...
Que nous, on puisse passer des périodes difficiles.
Véronique, les céréaliers savent bien, ont des polices d'assurance qui roulent à peu près. Hein, ça fonctionne. Les éleveurs peuvent assurer les pâtures ?
Bah, oui, mais ça ne marche pas bien. Donc du coup, les indicateurs pour dire effectivement vous avez été affecté, tout ça, constate rarement la perte réelle qu'on a eue de production de fourrage. Donc du coup, ça marche pas super bien. Et il y a d'autres productions, mais où on peut même pas assurer. Hein. Les gens qui font du maraîchage diversifié, il y a pas de possibilité de s'assurer. Donc du coup, on est tous touchés. La solution qu'on a maintenant pour passer ces épisodes difficiles, c'est assurez-vous. Et en fait, c'est pas aussi simple que ça. Ça marche pas. Pas d'une façon aussi simple que ça. Ça marche pour des productions comme effectivement les céréales ou la vigne. Ou là, c'est
oui,
assez,
bon, pour des productions un peu normées, simples. Voilà, bon, ouais, si les viticulteurs, les céréaliers nous entendaient, ils nous arracheraient les cheveux. Mais bon, par rapport à d'autres problématiques, c'est vrai que ça peut paraître plus simple. Ouais. La preuve, les assureurs ont réussi à sortir des choses. Ce qui n'est pas le cas pour l'élevage, excusez-moi.
Du coup, nous, à la Confédération Paysanne, par rapport à cette problématique climat et comment est-ce que les fermes peuvent passer des épisodes climatiques comme ça, hyper dégradants, on demande à ce qu'il y ait la création d'un fonds mutuel et solidaire, qu'on appelle, nous, et ça serait que en fait, toute la filière qui vit de l'agriculture, en fait, elle contribue à ce fonds et que ça soit pas simplement les agriculteurs soutenus par des aides publiques, en fait. Toute l'industrie agroalimentaire qui est derrière, tout le machinisme qui est avant nous, ils ont tous besoin qu'on bosse, en fait.
D'accord.
Et donc, du coup, pour nous, ils devraient être solidaires
pour
alimenter ce fonds. Quoi.
Et cette proposition,
elle a été balayée.
Au nom de sous quel argument?
Pour le moment, ce qui nous est proposé, c'est qu'on soit, s'assure, du coup, en payant une partie et sur les fonds de la politique agricole commune, il y a l'autre partie qui soit prise en charge. Mais ça, en fait, on ne peut pas satisfaire avec cette façon de proposer
de
aux agriculteurs
risques,
de gérer les risques. Ça ne peut pas marcher.
Alors effectivement, l'augmentation des risques
est phénoménale.
Et, en fait. Et les aléas, ça fait partie des réalités agricoles.
Complètement.
Et qui ont augmenté d'une manière phénoménale depuis 30 ans, depuis que la CET existe, depuis 1955. Ça, c'est pour blaguer. Mais effectivement, on n'est plus du tout... Les réalités agricoles ne sont plus les mêmes depuis 30 ans. Quoi.
Les épisodes de gel se font de plus en plus tard. Enfin bon, il y a plein de choses qui aujourd'hui.
Cette approche territoriale dont nous parlait Paloma, est-ce que ça peut pas correspondre justement à cette espèce de besoin que tu viens de nous décrire, Véronique, de mettre un peu tout le monde ensemble. C'est vrai que les territoires, par définition, c'est le lieu du de la mutualisation, c'est un peu le lieu où on va partager les interrelations, quoi. Paloma, est-ce que tu peux réagir sur ce problème, ce cas de figure, de mettre peut-être tout le monde autour de la table?
Oui, c'est ce qui est fait d'ailleurs dans certains territoires. C'est important parce que c'est à l'échelle territoriale, c'est à l'échelle d'un département ou d'une région qu'on va pouvoir réunir tout ce qui fait qu'à la fin, on a de quoi manger. Les producteurs, les transformateurs, les logisticiens, puis ensuite les vendeurs. Si on parlait tout à l'heure de migration, de déplacement de culture, si on ne décide pas d'une migration de culture en anticipant les besoins en eau que vous évoquiez tout à l'heure, les aspects logistiques, les outils de transformation qui sont présents sur le territoire, alors on conduit des producteurs à leur perte parce que ils vont se développer des cultures investir et en fait, il n'y aura pas la reprise. Oui. Et ça se fait à l'échelle locale. On ne va pas produire vous n'allez pas envoyer une vache à l'abattoir à trois régions de chez vous. Il faut que ce soit local. Donc c'est pour ça que c'est la bonne maille de décision.
Alors justement, comment s'impliquent les élus territoriaux? Parce que jusqu'à maintenant, l'agriculture était une affaire souvent de professionnels, et pour ne pas dire de syndicats. On l'a bien vu avec la mainmise de la FNSEA sur les politiques agricoles depuis plusieurs décennies, on va dire. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas devenu le temps des territoires, peut-être pour casser un petit peu ces schémas-là? Les régions, depuis quelques années, prennent des compétences. Est-ce que vous les voyez venir Je sais que le conseil régional de Bretagne, on va dire, mouille la chemise. Est-ce que vous les voyez apparaître et en est-il?
Après, ça dépend des territoires. Oui, effectivement, en Bretagne, il y a eu un soutien fort à ce qu'on appelle les mesures agro-environnementales et climatiques pour, du coup, soutenir les fermes qui avaient plus un lien au territoire dans leur production par rapport au hors-sol, quoi. Mais par contre, on a d'autres régions où c'est une catastrophe. Enfin, moi, vous prenez la région Auvergne-Rhône-Alpes avec... Laurent Wauquiez, en fait, tout ce qui est agriculture, du coup, paysanne, biologique et tout ça, c'est aucun soutien, rien du tout.
Alors que la Drôme était un département leader en matière d'agriculture biologique.
Ouais, bah maintenant, c'est vous, débrouillez-vous, quoi. Et puis, on va soutenir que des projets qui sont plus sur l'agriculture
exportatrice. Pour l'exporter du blé, pas cher, au cours de Chicago, quoi. C'est vachement malin.
Donc, du coup, oui, c'est une bonne échelle s'il y a une volonté politique, en fait, d'utiliser les moyens qu'on
Mais
a à
bon,
cette échelle-là.
On est dans les arènes de l'écologie citoyenne.
Pour orienter
donc, effectivement,
l'agriculture.
On peut lancer un appel aux citoyens. Saisissez-vous de la politique agricole, quelque part. Alors, comment on peut s'en saisir, justement, quand on est citoyen de la politique agricole?
C'est une bonne question.
Voilà, excusez-moi, les copains, je vous ai coupé la chic.
Oui, non, mais il voulait parler aussi. Hein,
allez.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, mais je me rappelle avoir vu au salon agriculture, il y a 2 ans, je pense, un assureur, je pense que c'est le groupe AXA, qui proposait, justement, de bénéficier de ses services et donc de ses assurances, à condition de respecter des scénarios qui étaient basés sur l'évolution du climat. Je ne sais pas ce que ça a donné, AXA Climate.
Oui, c'est ça.
Je ne sais pas si vous les connaissez, si vous travaillez avec eux. Et est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va dans le bon sens? Parce que tous les acteurs, c'est aussi cela.
Ils sont dans votre biographie, Paloma.
Oui, ce sont des acteurs connus du secteur, mais on ne travaille pas encore, en tout cas.
Vous ne savez pas s'ils ont des résultats, si ça attire, s'il y a un marché pour ça, effectivement.
Je pense qu'il y a un marché pour ça, parce qu'on a besoin d'être éclairé pour pouvoir prendre des décisions. Et donc, plus on est dans un contexte d'incertitude, plus on a besoin d'avoir des éléments pour venir composer notre faisceau d'indices. Donc, toute l'étude de projection...
Mais comme vous le dites, la solution est dans la maille territoriale, pas forcément dans la maille d'exploitation, parce que tous ces outils de pilotage, que ce soit l'agriculture numérique et autres, est fait pour rendre le chef d'exploitation prendre de meilleures décisions. Mais il pourra prendre des décisions que dans son périmètre. C'est vrai qu'il va quelquefois en s'étendant, mais c'est pas ça. Ce dont vous parlez, c'est une espèce de solidarité, d'inter-action entre tous les acteurs de la chaîne de valeur, si c'est le bon terme. Et Véronique, vous vouliez rajouter quelque chose?
Non, c'était juste pour rebondir encore une fois sur les assurances.
Vous êtes au basket, vous.
À un moment, ça a pu représenter une opportunité, en fait, pour le milieu des assurances, qu'on soit obligé de s'assurer pour passer, en fait, ces périodes de risque. Mais ils sont en train de se rendre compte qu'en fait, ils n'ont pas du tout les moyens et que même si on est tous obligés maintenant, si on veut, pouvoir être couvert parce que les calamités agricoles, qui étaient du coup une aide publique, sont en train de disparaître. Donc la seule solution qu'on a, c'est de contracter une assurance. En fait, ils sont en train de se rendre compte qu'ils vont pas gagner d'argent avec ça. Qu'il y a beaucoup trop d'accidents climatiques. Mais quand même, l'objectif d'une assurance, c'est de gagner
Paloma
de l'argent.
Paloma disait inassurable, c'est ça. C'est considéré comme inassurable. Donc
ils vont pas gagner d'argent avec ça. Enfin, voilà.
Et c'est dans le monde entier, hein, ces phénomènes. Puisqu'en Californie, c'est le cas. On peut plus assurer sa maison... Mais dans toute la Californie, Los Angeles a en fait été donner le signe, et c'est une galère pour...
Non, mais j'avais entendu dire que dans le Nord, face aux inondations, ils jetaient l'éponge.
Oui, oui, et c'est pour ça que sans doute, ils proposent d'assurer si on s'engage sur une trajectoire qui va diminuer ces risques climatiques. Quoi. Enfin, je suppose que ça doit être la raison.
Sur le sujet de l'inassurabilité, je pense que c'est un point qui est en train...
en train d'émerger, quoi.
Oui, mais qui est aussi en train d'être pris en main. Il y a la Gazette des communes qui a publié aujourd'hui un courrier qui aurait été envoyé ce jour par le Premier ministre aux élus sur les sujets d'inassurabilité de leurs communes. Donc voilà, c'est un problème qui est connu, mais qu'il va falloir adresser.
Ah bah écoutez, la Gazette des communes, de bons souvenirs.
Mais reviens sur comment on s'approprie, comment...
On te laisse la main, non, Ben, vas-y.
Comment est-ce qu'on peut, nous, en tant que citoyens,
n'aie pas peur, adresse-toi, Paloma.
S'approprier ce sujet
En tant que citoyen d'une commune, par exemple, il y a tous les sujets autour de la restauration collective. Publics ou parapublics, sur lesquels les collectivités, à différentes échelles, peuvent avoir la main pour pouvoir faciliter la production de repas locaux, des achats locaux. Ça commence par la définition du local qui est propre à chaque territoire.
Voilà. Eh bien, Paloma, on va faire toute la liste parce qu'effectivement, il faut qu'on passe à la petite musique, la pause musicale qu'on me fait signe. Allez-y, les gars.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
And if somebody loved me like she do me, oh, she do me, yes, she does. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. I'm in love. The first time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down.
Eh bien, nous voilà revenus dans les arènes de l'écologie sur Aligre FM pour notre débat sur les perspectives de l'agriculture. Donc, Paloma, tu avais commencé à nous donner des pistes de, permettant aux citoyens de se saisir un peu de ces questions-là. Alors, tu nous as dit qu'on pouvait déjà s'en saisir par la voie de la restauration collective aux écoles. Dans les écoles, ça, c'est effectivement assez connu. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'on leur voit aujourd'hui apparaître comment dire, des conventions municipales sur différents sujets, sur le climat, sur d'autres. Est-ce que vous avez relevé des pistes là-dessus? Est-ce que les élections municipales pourraient être une... On pourrait se saisir du sujet dans un an?
Un tremplin pour...
Oui, mais je pense que chaque élection à venir, en plus il va y en avoir pas mal là, dans les prochaines années, nous serviront à pouvoir remettre ce sujet-là. Il y a beaucoup d'élections locales qui vont avoir lieu, donc ça va nous permettre de pouvoir remettre le sujet de l'alimentation et de l'agriculture au cœur des débats.
D'accord. Donc effectivement, on va en reparler bientôt. Des objectifs du développement durable. Je crois que c'était un vieux truc qui datait de Mathusalem. En fait, non, c'est beaucoup plus récent que ça. C'est 2015. Effectivement, c'était pour une fois en 2015, les 180, je ne sais plus combien, 13 nations avaient réussi à se mettre d'accord sur un sujet. Ils avaient défini 17 objectifs, dont certains sur le besoin de l'alimentation. Je n'ai plus le chiffre en tête. Mais il y a peut-être moyen de remettre ça au goût du jour. En tout cas, ça va être un des sujets qu'on va traiter dans l'émission prochaine. Qui va être municipal.
C'est une bonne idée parce qu'il y a un grand débat sur le 18e.
Ah oui, alors le 18e objectif qui est celui de rajouter un 18e objectif, oui. Celui de la culture. Mais là, tu auras remarqué qu'on était dans l'agriculture.
J'étais pas loin.
Ouais, je vois que tu progresses. Et donc, la semaine prochaine, on va traiter de ça. Est-ce qu'on peut remettre les questions, alors pas agricoles, mais bon. En règle générale, les questions d'écologie dans les programmes des élections municipales, ça va être notre prochain rendez-vous. J'espère qu'on aura des milliers de personnes à nous écouter, puis peut-être à réagir. Et donc, il nous reste à remercier, comme d'habitude, Armand Yuri et puis Sefrem Famille à la technique. Et puis à vous souhaiter une bonne semaine et puis à la semaine prochaine. Voilà. En tout cas, on remercie beaucoup Paloma Pardiniel et Véronique Marchessault. Et c'est toujours trop court. Et Olivier qui reviendra parce que bon, on vous expliquera ça plus tard. Il faudra effectivement qu'il me remplace avec Ben dans quelques semaines. Mais bon, on en reparlera le moment venu. À bientôt.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.